Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du rendez-vous des audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Marie-Claire. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Donc, vous êtes présidente de l'association 60 000 rebonds Grand Est.
Oui.
Et en fait, vous accompagnez des entrepreneurs en post-liquidation à rebondir dans un nouveau projet professionnel. C'est ça ?
C'est tout à fait ça.
Et oui.
Oui. C'est tout à fait ça, oui. Effectivement. 60 000 rebonds a vocation à accompagner les entrepreneurs après la liquidation judiciaire de leur entreprise jusqu'à leur rebond, c'est-à-dire un nouveau projet professionnel qui leur convienne.
Et en fait, je trouvais ça vraiment intéressant parce que ça a quand même une résonance avec mon podcast qui traite quand même un peu de l'échec. Donc moi, j'aimerais savoir comment vous êtes rentrée dans cette association.
Alors, je suis rentrée dans cette association parce que je fais un métier exigeant qui s'appelle le coaching. Et quand on est coach, on a un devoir par rapport à soi, par rapport à ses clients, c'est d'être supervisé. Et mon superviseur était et est toujours d'ailleurs coach référent du Grand Est. Et un jour, à l'occasion de nos échanges, elle m'a proposé de venir rejoindre l'association comme coach référente avec elle. Ce que j'ai fait et ce qui m'a fait découvrir à la fois les missions, parce que nous avons celle dont on vient de parler, mais on a aussi une deuxième mission qui est celle de faire évoluer, enfin de contribuer à l'évolution du changement de regard sur l'échec dans la société. J'ai trouvé que les missions étaient passionnantes. J'ai trouvé que l'équipe était inspirante. Et j'ai trouvé que les entrepreneurs en rebond que nous accompagnons, c'était à chaque fois une chance de les rencontrer. C'est des gens qui sont tellement... Ils se pensent, et ils sont peut-être vulnérables parce que l'épreuve les a rendus vulnérables, mais ils sont pleins de ressources qui sont mobilisables et c'est ça qui m'a fait m'engager, comme coach référente tout d'abord.
Mmh. Et c'est quel type de profil qui sont pris ?
Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, 60 000 rebonds, on essaie de... On est très attaché à nos valeurs, on est très attaché à les vivre au quotidien. Ce qui fait que nous avons, parmi les valeurs de 60 000 rebonds, il y a le professionnalisme, la bienveillance, la solidarité qui sont là. Et le professionnalisme fait qu'on a professionnalisé l'accompagnement. Et les gens qui viennent chez 60 000 rebonds sont des entrepreneurs. Donc, après la liquidation judiciaire, ils vont être accueillis par un comité d'agrément. Ce comité d'agrément, il va être composé de la permanente de l'association, du coach référent et du parrain référent, que je vous développerai tout à l'heure. Ce sont les chevilles ouvrières de l'accompagnement. Et ce comité d'agrément va bien évidemment vérifier deux choses essentielles. La première, c'est que nous allons, grâce à notre réseau, identifier le côté, si vous voulez, éthique de la liquidation judiciaire. Parce qu'on sait que la liquidation judiciaire peut être un artifice dans une procédure frauduleuse de cession de son activité. Donc, nous veillons à ce que la personne ne soit pas dans ce cas de figure-là. Et puis, la deuxième chose à laquelle nous allons être attachés, c'est d'observer la capacité de rebondir de la personne. Pourquoi ? Parce que cette épreuve, cette expérience douloureuse et très stigmatisante en France, fait que parfois certains d'entre eux ou certaines d'entre elles sont dans une très très grande fragilité psychologique et 60 000 rebonds n'a pas les capacités à accompagner. À ce moment-là, ce que nous faisons, c'est que nous différons leur accompagnement en leur proposant d'aller consulter leur médecin, par exemple, pour en parler d'abord avec le médecin. Et le médecin joue un rôle essentiel à cet endroit-là parce qu'il peut prescrire une thérapie, peut expliquer au dirigeant, à l'ancien dirigeant, la nécessité pour lui d'aller consulter un psychologue clinicien ou un psychiatre pour déjà travailler sur et se réparer, hein, guérir de sa dépression lorsqu'il s'agit d'une dépression réactionnelle, par exemple. Et ça, nous y sommes très, très attachés. Et une fois que cet agrément est acquis, eh bien, l'aventure soit simple et le rebond commence.
Oui, parce qu'en fait, on ne le dit pas, mais l'échec pour avancer, etc., en fait, c'est dur, l'échec. C'est pas confortable et je souhaite à personne d'avoir un échec parce qu'on est facilement proche du burn-out, en fait. C'est possible, en fait. J'ai compris ça, que l'échec, on n'a pas besoin de l'avoir pour forcément réussir. Tu auras des moments douloureux. Je souhaite à personne l'échec parce que on peut tomber bas. Ça fait mal à l'ego. Et en plus de ça, on n'a pas envie de subir ça.
Alors, ça interroge notre croyance, notre relation avec l'échec. Et c'est vrai que nous sommes dans une société judéo-chrétienne où la notion d'échec, on a à la désacraliser. Les anglo-saxons, ils sont parvenus plus vite que nous, pour plein de raisons, mais il me semble essentiel effectivement d'envisager l'échec comme une source d'apprenance. Alors oui, c'est douloureux, ça peut être douloureux, ça peut l'être moins aussi. Chacun vit l'expérience avec une caisse de résonance qui lui est personnelle. Ce qu'on sait, c'est que le regard des autres, la relation que vous avez avec vous-même et avec les autres, peut être impacté sévèrement par cette liquidation judiciaire. Et surtout, un immense sentiment de culpabilité peut à ce moment-là vous assaillir. En tant que coach référente, avant d'être présidente, j'ai eu l'occasion de coacher des entrepreneurs en rebond. Et je me souviens toujours avec beaucoup d'émotion, le premier rendez-vous avec un entrepreneur en rebond, dont le sentiment de culpabilité est très vite exprimé. Culpabilité vis-à-vis de ses salariés, culpabilité vis-à-vis de sa famille, culpabilité à l'endroit des fournisseurs, des prestataires, des partenaires, de l'écosystème en quelque sorte. À la fois de la culpabilité, et puis parfois aussi une posture de victime. Victime de quelque chose d'extérieur à lui-même, refusant presque de prendre sa part de responsabilité dans l'échec. Et le chemin qu'avec le coach il va faire va lui permettre de prendre conscience à la fois de tout l'intérêt d'aller dans la zone de responsabilité et de ne pas s'attarder dans la zone de culpabilité. Et à ce moment-là, si vous voulez, on commence la reconstruction. Mais il est vrai qu'à cet endroit-là, ils sont touchants et c'est vrai que le regard de notre société sur cette population-là est très stigmatisante.
Des personnes qui ferment vraiment leur société, qui liquident.
Tout à fait. On ne s'occupe que de ces gens-là.
Oui, c'est ça.
Hein? On ne s'occupe qu'après la liquidation judiciaire. On a ouvert, à partir du moment où il y a eu ce confinement, la pandémie du Covid et le confinement, il a été proposé à tout dirigeant encore en activité de bénéficier de 3 séances de coaching gratuites chez 60 000 rebonds au niveau national. Et 320 coachs, des coachs de 60 000 rebonds, se sont mobilisés pour, et dans la région, les coachs se sont mobilisés aussi autour de cela, et pour offrir 3 séances de coaching gratuits à des entrepreneurs qui étaient encore en activité. Mais notre activité, elle est orientée exclusivement sur celui dont l'entreprise a été liquidée par le tribunal. Ça, c'est fait, on intervient après. Il y a plein d'intervenants avant la liquidation judiciaire possible. Nous avons fait le choix d'intervenir après.
Mais même au niveau des banques, c'est compliqué, je pense, de recréer après une liquidation judiciaire.
Alors, là aussi, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses évoluent. Je pense notamment à un rendez-vous que j'ai eu il y a une quinzaine de jours avec le directeur régional de la Banque de France du Grand Est, qui nous a reçus avec son adjoint et qui nous ont merveilleusement accueillis, qui nous ont expliqué effectivement ce que proposait. Et on sent que le regard des banques vis-à-vis de ses clients qui ont vécu l'expérience de la liquidation judiciaire a considérablement changé. Dans la loi Pacte, 60 000 rebonds a été fort de propositions dans la loi Pacte et nous avons obtenu que deux de nos propositions soient retenues par Bercy, et notamment celle du fait qu'il y ait un droit d'oubli, en quelque sorte, sur le casier bancaire de l'entrepreneur en rebond, pour qu'il puisse se relancer dans l'entrepreneuriat sans artifice, sans bidouillage, et pouvoir le faire, avoir les coudées franches et le soutien des banques. Et en cela, je trouve que les banques ont considérablement changé leur façon d'aborder l'entrepreneuriat. C'est peut-être aussi lié au fait que depuis quelques années, avec le statut d'auto-entrepreneur, de micro-entrepreneur, de micro-entreprise, enfin, il ne vous a pas échappé que la France est devenue une France entreprenante.
Mais c'est ce qu'ils essayent de nous pousser à faire, en fait, de nous lancer. Mm-hmm. Mais c'est important parce que tout ce qu'on a là aujourd'hui, c'est grâce
Oser, se donner l'autorisation d'oser, d'expérimenter.
Que ce soit notre ordinateur, notre téléphone, notre chaise, etc. Ça a été fait par des gens qui se sont lancés, en fait, qui ont osé expérimenter, aller face à des banquiers, avoir des refus, etc. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Enfin, c'est quoi, comment on les accompagne, etc.
Alors, dès qu'un entrepreneur en rebond intègre l'association après le passage au comité d'agrément, on lui choisit un coach. On lui choisit un coach et parfois même tout de suite un parrain qui est déjà un peu prédéfini. En tout cas, c'est le coach qui intervient dans le cadre de 7 séances qui lui sont offertes gratuitement, parce qu'il n'y a aucune contrepartie financière, tout est bénévole. Et pendant lesquelles, je vous disais tout à l'heure, l'entrepreneur en rebond va avoir un regard professionnel bienveillant, sans jugement de valeur, qui va pouvoir lui faire travailler sur son sentiment de culpabilité et s'en dépouiller pour aller dans sa zone de responsabilité, là où sont les réponses, au sens étymologique du mot responsabilité, avoir la réponse. Et puis peut-être aussi envisager déjà le futur, faire le deuil bien évidemment de l'expérience passée. Donc c'est aussi accepter ce moment riche en émotions. Et là aussi, ils ne sont pas égaux, parce que la relation qu'un dirigeant peut avoir avec les émotions, elle est très différente en fonction de votre culture, de votre éducation et de ce que vous avez compris de cet espace un peu étrange qui s'appelle les émotions. Donc une fois que ça est fait, ça c'est l'accompagnement individuel si vous voulez, il va avoir un parrain. Le parrain, c'est un dirigeant, un cadre dans une entreprise qui va accompagner pendant 2 ans. Les accompagnements peuvent durer jusqu'à 2 ans, un entrepreneur sur vraiment la réalisation très très concrète de son nouveau projet. Quand on parle de projet, quand on parle de rebond, chez 60 000 rebonds, il n'y a de notre part aucun prosélytisme. C'est-à-dire qu'on va accompagner l'entrepreneur qui veut retourner au salariat parce que son rebond, il ne l'envisage que dans le salariat. Ou alors, on l'accompagne jusqu'à la création ou la reprise d'une nouvelle entreprise. Le parrainage, c'est donc le parrain est celui qui va accompagner.
Comment se déroule un accompagnement chez 60 000 rebonds?
Alors, un accompagnement chez 60 000 rebonds va se composer de deux parties différentes, une partie individuelle et une partie collective. Je vous parlais d'abord de la partie accompagnement individuel. La partie accompagnement individuel, elle démarre tout de suite après le comité d'agrément, où l'entrepreneur en rebond va aller rencontrer un coach. Ce coach va l'accompagner pendant 7 séances qui sont sans contrepartie financière, puisque je vous rappelle que 60 000 rebonds, tout est fait par des bénévoles et de façon gratuite. Donc le coach va accompagner la personne sur le chemin du deuil parce que l'expérience qu'elle vient de faire va l'amener à avoir à faire le deuil de certaines choses, donc le coach va veiller à cela, à sortir de sa culpabilité. Je vous en parlais tout à l'heure, hein, de ce sentiment de culpabilité à l'endroit de la famille, des fournisseurs, des salariés, et puis les emmener sur le terrain plutôt de la responsabilité, donc échapper aussi à leur statut de victime de quelque chose, mais plutôt être responsable de ce qui leur est arrivé et de trouver dans cet espace les réponses, et donc être source d'apprenance, hein, à cet endroit-là. Et puis, une fois que ce coaching, enfin, parallèlement au coaching, très vite, un parrain va lui être attribué. Alors, ce parrain, on va veiller à ce qu'il soit en capacité d'accompagner le projet qui va émerger pendant le coaching de rebond. Alors, il y a plusieurs niveaux de rebond, parce qu'il y a le rebond immédiat, c'est-à-dire la personne qui n'envisage plus du tout, ou s'est même peut-être engagée dans sa famille à ne plus jamais repartir. Le virus de l'entrepreneuriat ne le touchera plus jamais, il se sent... inoculé contre ce fameux virus de l'entrepreneuriat. Ça, on verra tout à l'heure que c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, on s'attache à ce que le rebond soit dans le salariat, soit dans l'entrepreneuriat, soit de bonne qualité, et on va veiller à ce que le parrain soit au plus près de cette réalité-là. Le parrain va l'accompagner par des rendez-vous une fois par mois ou deux fois par mois, ou quand c'est nécessaire, pour vraiment construire le nouveau projet. À cela, bien évidemment, va s'ajouter la présence d'experts, parce que parfois, pendant le coaching, ou plus fréquemment pendant le parcours du parrainage, peut émerger un besoin spécifique. Ça peut être un besoin de réfléchir ou d'avoir des informations sur une protection intellectuelle, ou le dépôt d'un brevet, par exemple. Ou ça peut être besoin de savoir comment on peut commercialiser ou marketer ce produit qu'on a envie de vendre. Auquel cas, nous avons tout un réseau d'experts qui reçoivent en consultation l'entrepreneur en rebond, si vous voulez, pour l'aider de façon très pratico-pratique à faire. Ça, c'est sur la partie de l'accompagnement individuel. Je vous disais au début de mon propos qu'il y avait aussi une partie accompagnement collectif. Pourquoi ? Parce que 60 000 rebonds, c'est très clairement le premier réseau que va fréquenter, auquel va contribuer un entrepreneur après sa liquidation judiciaire. Bien souvent, la liquidation judiciaire amène l'entrepreneur à un sentiment de repli sur lui, d'isolement, voire même de profonde solitude, souvent mal vécue d'ailleurs. Donc, venir une fois par mois à une réunion où se réunissent les entrepreneurs en rebond, leur coach, leur parrain, et de temps en temps la présence de quelques experts qui viennent, fait vivre, si vous voulez, la solidarité du collectif. Chacun va parler de son actualité, chacun va parler de ses besoins, et chacun va pouvoir être contributeur du besoin de l'autre, de la satisfaction du besoin de l'autre. Et de cette façon-là, il renoue un petit peu avec être contributeur de quelque chose. Il se sent utile aux autres. Et c'est de cette façon-là que se vit la solidarité chez 60 000 rebonds, aussi dans cet espace-là. Cet accompagnement collectif, donc c'est ce qu'on appelle les copiles, donc c'est une fois par mois, qui sont suivis d'un, ce qu'on appelle dans notre jargon, un groupe de développement. C'est-à-dire qu'on a identifié, parrains et coachs ont identifié que l'entrepreneur avait un besoin spécifique et on anime. Il y a un coach qui va animer un atelier d'intelligence collective autour d'un entrepreneur et de son besoin, avec une dizaine de personnes qui vont se mobiliser à son profit à cet endroit-là. Dans le Grand Est, j'ai souhaité expérimenter deux formes d'accompagnement collectif que nous avons décidé d'ailleurs de pérenniser. Avant le copil, les entrepreneurs en rebond ont un moment de partage de groupe de parole. C'est-à-dire qu'ils sont seuls avec une psychologue clinicienne formée à l'écoute et au groupe de parole, où ils vont pouvoir, si vous voulez, entre eux, échanger sur leur état émotionnel, là où ils en sont. et vont pouvoir mettre des mots sur leurs mots, comme on dit, avec une professionnelle. Et puis ensuite, il y a un deuxième temps qui est un temps où des praticiens du bien-être viennent leur partager avec eux des outils de la gestion de stress. Alors c'est la sophrologie, la méditation. On a la chance d'avoir des praticiens de bien-être très professionnels et très impliqués. Et là, cet atelier-là, il est ouvert aussi aux bénévoles, permettant à ces communautés de sens et de valeurs de vivre quelque chose ensemble. Et comme vous le savez, la gestion du stress, savoir gérer son stress, c'est bon pour tous, oui. Pour chacun d'entre nous.
Mais je voulais justement parler du fait de se regrouper ensemble quand on subit un gros échec, parce que pour moi, la liquidation, c'est quand même difficile quand on est entrepreneur, hein, c'est vraiment un coup de massue, je trouve. Ça fait du bien, je pense, d'être ensemble et de voir qu'on n'est justement pas seul dans un pays où on ne parle pas des échecs. Et je pense que ça permet de relativiser certains...
C'est très juste ce que vous dites, d'autant que pendant ce groupe, et à la fois pendant le groupe de parole, mais aussi pendant ce qu'on appelle le COPIL, donc ce rendez-vous partagé par tous les entrepreneurs et les bénévoles autour, il est à noter que les chemins, l'avancée sur le chemin du rebond est différent. Et c'est toujours très... très inspirant pour quelqu'un qui arrive avec la liquidation judiciaire récemment prononcée, de voir autour de lui, de rencontrer, d'échanger avec des gens qui ont fait le même chemin, qui ont déjà parcouru ce chemin-là, qui ont avancé sur ce chemin, parce qu'ils sont source d'inspiration et d'espérance aussi, en se disant « je ne suis pas seule, plusieurs sont dans la même situation que moi, et ils parviennent à avancer ». Donc je pense que c'est porteur d'espoir aussi ça, pour eux.
Oui, ça permet de se dire « je peux y arriver ». Est-ce que c'est plutôt des profils... Enfin, comme on a dit, c'est soit il faut une thérapie, ça ne va pas, c'est vraiment le burn-out. Ou est-ce que c'est déjà des personnes un peu résilientes qui viennent chez vous ? Enfin, je ne sais pas, je pense qu'il y a de
alors,
tout.
Alors, il y a quelque chose que je vais me permettre de poser comme ça, partager avec vous. La notion de burn-out. La notion de burn-out, c'est une notion, vous savez, le verbatim, dans notre société, on est consommateur de verbatim. Et il y a tout à coup des mots comme ça qui viennent remplacer d'autres mots. Et je crois que c'est Albert Camus qui disait que mal nommer les choses, c'est faire mal au monde. Et je ne sais pas s'ils font des burn-out. Je crois plutôt qu'ils font des dépressions réactionnelles. Ils sont en réaction par rapport à quelque chose. Le burn-out, je le vois davantage dans une question de la relation que vous pouvez avoir avec votre travail.
C'est plutôt les profils.
Vous investir, vous impliquer. Donc, les entrepreneurs en rebond que nous avons, je vous le disais tout à l'heure, le comité d'agrément va repérer leur capacité à rebondir. Parce qu'il est vrai que dans le rebond, il y a la notion de résilience. Et la notion de résilience, c'est faire face à l'épreuve et c'est savoir faire avec aussi. Et c'est ce qui peut-être manque un peu aux plus fragiles d'entre eux et dont on diffère l'accueil.
Mais après, moi, le burn-out, moi, je vois le burn-out comme vraiment... quand on n'arrive plus à se sociabiliser, quand même on doit aller à l'hôpital parce qu'on ne peut plus se nourrir, etc. Ouais, mais je pense que c'est plutôt un profil des gens qui ont un travail, un haut travail et qui ne voient plus le sens de ce qu'ils font. Je pense que le burn-out est plus... J'ai l'impression que c'est plus vécu par des salariés qui sont projetés à des gros salaires et qui se disent « mais qu'est-ce que je fais là, en fait ?»
Alors, le burn-out, on le trouve aussi beaucoup chez les soignants.
Ah oui, mais ça, c'est encore plus extrême, c'est normal.
Voilà.
Il y a beaucoup de soignants, les médecins.
D'ailleurs, l'étymologie du mot vient du burn-out des soignants en milieu psychiatrique. Hein. C'est vous dire que ça correspond à une réalité psychique bien identifiée et dans un tableau. S'ils étaient en burn-out, ils ne viendraient pas jusqu'à nous et on ne pourrait pas les accueillir. S'ils sont en dépression réactionnelle, on va différer l'accueil et on va les orienter vers leur médecin traitant ou s'ils ont besoin, on va leur conseiller peut-être de se rapprocher d'associations différentes de la nôtre, dont c'est l'objet, quelque sorte. Nous allons travailler qu'avec celui et celle qui est en capacité de mobiliser ses ressources. En tout cas, est en capacité d'identifier très vite ses ressources et de les mobiliser.
Et qui a la petite flamme en lui, en fait.
Alors,
je ne sais pas comment dire ça, mais c'est la vision que j'ai. On voit quand même en lui, on se dit, bon, il a vécu quelque chose de dur, mais il a quand même envie d'avancer. Donc, je me dis, il a un peu la flamme, et un peu... Enfin, j'aime bien la métaphore. Vous mettez un peu l'essence sur la personne pour qu'elle...
En tout cas, si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'on soit très conscient de nos limites à nous accompagnants pour ne pas mettre en danger les entrepreneurs en rebond. C'est-à-dire que nous sommes très vigilants sur ce qu'on sait faire, peut faire, et la frontière avec ce que nous ne savons pas faire et ne pouvons pas faire.
Ce qui est très important dans toutes les choses, même quand on est entrepreneur, ce qu'on fait... Et ce qu'on ne fait pas, c'est important de les dissocier.
La frontière est assez claire.
Oui, c'est dans tout, en fait, faut bien les écrire.
C'est important.
Et on a parlé des parrains.
Oui.
Les parrains, c'est des entrepreneurs, c'est ça ?
Pardon ?
C'est des entrepreneurs.
Alors, ce sont des entrepreneurs, mais ça peut être aussi des cadres dans des entreprises,
oui, voilà,
hein, qui ont envie de s'investir. Certains de nos partenaires ont bien compris que 60 000 rebonds était un champ d'expérimentation de la RSE, cette fameuse responsabilité sociale, sociétale et environnementale de l'entreprise dans l'écosystème. Du mécénat compétences peut venir à ce moment-là, des cadres peuvent devenir des parrains. C'est un espace dans lequel les cadres d'ailleurs trouvent beaucoup de sens à ce qu'ils font, parce que ça fait sens.
Oui, je pense que quand le salariat, c'est très très bien, je ne cracherai jamais dessus, mais beaucoup de personnes se demandent aujourd'hui s'il y a du sens dans leur métier de cadre, même s'ils sont bien payés, même s'ils ont des hauts statuts, etc. Ça doit aussi les aider de sortir un peu de ce monde.
De trouver du sens dans une mission à côté de la leur, dans laquelle ils peuvent absolument faire appel à leurs compétences, à leurs appétences, puisque c'est ce dont tu as besoin, entrepreneur en rebond.
Et justement, si quelqu'un veut devenir parrain, qu'il a envie de donner du sens à sa vie, qu'il se rend compte que ça serait super cool, d'aider des gens, comment on peut devenir parrain, en fait, chez
Alors, comment on devient parrain? Je vais vous dire, comme on devient bénévole chez 60 000 rebonds. Je vous disais tout à l'heure que nos valeurs, c'est bienveillance, engagement, solidarité et professionnalisme. Donc, nous avons en quelque sorte professionnalisé le bénévolat. C'est-à-dire que là aussi, il y a un comité d'agrément. Venir chez 60 000 rebonds et proposer son aide, ses compétences, ses appétences, c'est accepter d'être reçu par un comité d'agrément qui va essayer de repérer à la fois si vos compétences sont suffisamment solides, parce que nous avons en face un public fragilisé, vulnérable. C'est pourquoi d'ailleurs nous n'accueillons pas de jeunes coachs. On va demander à un coach d'avoir un certain nombre d'heures de coaching, des années d'expérience pour accompagner de la meilleure façon et mettre en sécurité à la fois l'entrepreneur en rebond, mais à la fois aussi le coach qui pourrait vivre ça d'une façon très, très inconfortable. Et nous veillons à cela. Donc, il suffit de téléphoner à l'association, d'accepter de venir à la rencontre et présenter ce qu'on sait faire à ce comité d'agrément. Et à ce moment-là, l'aventure de 60 000 rebonds commence.
D'accord.
Pour les bénévoles aussi.
Parce que il y a toute une partie, on n'est pas forcément entrepreneur en liquidation, et peut-être qu'on est entrepreneur qui a envie d'aider des entrepreneurs, donc d'où la question.
Oui. Mais je comprends tout à fait que vous posiez cette question, parce qu'elle est au centre, si vous voulez, de la façon dont 60 000 rebonds a envisagé l'accompagnement. Vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions toujours. Donc, on ne veut pas. Nos entrepreneurs en rebond viennent de vivre un enfer. Non. On n'a pas envie de leur faire vivre un deuxième enfer avec un accompagnement qui ne fonctionne pas. Donc, on apporte beaucoup de soins. Et on sait ensuite qu'on peut faire confiance dans l'engagement, le niveau d'implication. Les coachs sont supervisés, les parrains sont formés. Ils sont donc, tout le monde est, et après le comité d'agrément, si vous voulez, vient le temps de la supervision pour les coachs et puis de la formation des parrains. Le parrain référent dans le Grand Est, Marc Dupeux, organise deux sessions par an de formation aux des parrains, parce que je pense qu'effectivement on peut avoir des compétences extraordinaires, des appétences fabuleuses, mais peut-être ne pas pouvoir être maladroit dans sa relation avec l'entrepreneur en rebond. Donc on propose une formation qui est très, très apprenante et qui fonctionne très très bien d'ailleurs.
Oui, parce que je pense que des fois dans nos mots, même si on a beaucoup d'expérience, on parle avec nos limites, nos croyances, et on peut faire beaucoup de mal en fait sans s'en rendre compte. Il y a des gens, ils pensent que pour motiver les gens, eh ben il faut les casser. Donc j'avoue que si on tombe sur quelqu'un qui est dans sa propre croyance et qui comprend pas que la personne en face n'a pas besoin de ça pour avancer.
C'est très juste ce que vous dites, parce qu'en fait en tant que coach par exemple, dans ma pratique du coaching, il y a un moment donné où on va confronter notre client. On va lui tendre un miroir dans lequel il ne se verra pas comme le plus beau des hôtes de la forêt, par exemple. Eh bien, c'est vrai que ça demande des précautions. Ça demande des précautions, ça demande aussi une autorisation à le faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend dans notre métier de coach très tôt. En revanche, vous êtes dirigeant dans une entreprise, vous n'avez pas nécessairement, et vous êtes légitime à ne pas savoir ça. Mm-hmm. Alors, nous avons, face à cette légitimité à ne pas savoir des bénévoles, nous avons, nous, le devoir de les former à cela.
Parce que, par exemple, je me fais coacher, et des fois, j'ai l'impression que ça manque de neutralité. Complètement. Des fois, j'ai pas l'impression que c'est un miroir, j'ai l'impression que ça manque de neutralité. Genre, on fait ça parce qu'on aime ça et ça nous galvanise de faire... Par exemple, moi, j'aime faire plein de choses, je m'en venue vite. En fait, c'est juste ma personnalité, je pense pas que ça soit des limites. Et je sais à quel moment je fais quelque chose, mais qui me nourrit, et voilà, etc. Et en fait, on me disait, non, tu devrais pas faire autant de choses. Et en fait, je me disais, mais pourquoi ? Est-ce que c'est ta vision à toi ? Est-ce que c'est ton fonctionnement? Ou il y a beaucoup de coachs aussi qui font l'erreur de se dire « Je me vois à travers toi, mais avant que je sois coach. » Et ça, je trouve ça moyen. Je trouve ça, là-bas, il y a trop là de... Non, en fait, tu prends... Enfin, le coaching... Enfin, je pense que le coaching est biaisé quand on n'arrive plus à mettre cette barrière neutre.
Alors... Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Si on parle du métier de coach, on va ouvrir une parenthèse sur le coaching. C'est assez intéressant. Mais je pense que dans ce que j'entends, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que le coach peut effectivement, à un moment donné, entendre quelque chose qui va résonner chez lui parce qu'il a une expérience similaire. Mm-hmm. Eh ben, il a le devoir, un devoir d'honnêteté intellectuelle de le dire.
D'accord.
Donc, il se mettrait en danger, et il mettrait en danger à la fois son client et la relation avec le client s'il ne le nommait pas. Mmh. Hein, nommer les choses en disant, ben, moi, quand j'entends ça, voilà ce que ça me fait, hein, parce que j'ai vécu là, quelque chose de similaire. Bon, si vous voulez, c'est par respect pour, et prendre soin de la relation, c'est aussi savoir dire ce que ça fait chez soi. Mmh. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le coach ne peut pas fonctionner par injonction. En revanche, interroger quelqu'un sur sa soif d'entreprendre plein de choses peut être utile si d'abord l'objectif du coaching est à cet endroit-là. Et à ce moment-là, ça peut être la question en quoi est-ce que c'est important pour toi d'entreprendre autant de choses, d'accord ? Mm-hmm. Plutôt que de dire pourquoi, on demande simplement à savoir en quoi c'est important pour la personne. Et dans cette phrase-là, il n'y a ni jugement de valeur, il y a simplement une invitation pour votre client de s'interroger sur les valeurs qu'il cherche à satisfaire à travers cette abondance d'activités. Et de regarder effectivement, encore une fois, si c'est en lien avec l'objectif et les critères de réussite que le client du coaching à poser au départ du contrat et de l'accompagnement du coaching, à ce moment-là, bah, il va pouvoir le faire avancer. C'est la relation entre l'anorexie et la boulimie. Mm-hmm. À un moment donné, on va aller interroger, non pas pourquoi les choses, mais en quoi est-ce que c'est important avant de les déconstruire et pour reconstruire autre chose. Mais c'est toujours en lien avec l'objectif que vous avez fixé. Et je pense que c'est très important que le coaché, reçoit, entend une question, une interrogation, une proposition, avec une émotion, c'est très important qu'il fasse confiance en son coach, dans sa capacité à entendre et à dire, ben, moi quand tu me dis ça, ça me fait un peu peur, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas la neutralité nécessaire entre nous. Et je vous encourage vraiment à ce moment-là à en parler, parce que vous pouvez nommer quelque chose d'intéressant dans le travail.
C'est, en fait, je me pose plein de questions, moi, sur le coaching et de mon personnel, et là, dans ma période d'infection, c'est, je me dis... que parfois ça manque cruellement de neutralité.
Qu'est-ce que vous appelez la neutralité ?
Voilà, que les questions sont très tournées vers... le discours est très tourné vers ce que pense la personne. Et elle pense des fois avec ses croyances à elle. C'est
alors,
ça que...
Oui, alors
des
ça,
fois, je remets un peu en question ça.
Il peut y avoir, peut, peut y avoir des débordements, mais ce qu'il peut y avoir aussi, c'est que le coaché vient... avec un système de défense, comme il vit en thérapie. Et il peut, à ce moment-là, si vous voulez, refuser les questions parce qu'elles sont dérangeantes. Mmh. C'est la meilleure façon de se défendre d'une question, de se défendre et de ne pas avancer, d'ailleurs, sur son sujet, c'est de ne pas prendre la question. Et c'est d'y voir quelque chose et qu'on juge. Vous voyez, c'est aussi... Peut-être aussi un point de vigilance pour le coaché. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il en parle avec son coach, en lui disant, voilà, moi j'ai l'impression que... parce que toute impression, tout sentiment est légitime. Et à ce moment-là, on prend soin de la relation. Et c'est à ces conditions-là que le coaching peut fonctionner. Qu'il peut même se dérouler. S'il ne pourra jamais fonctionner, il devrait même s'interrompre s'il n'y a pas la confiance. Hein. S'il y a le sentiment chez le coaché que le coach manque d'objectivité, ne pose pas les bonnes questions, eh bien, je pense qu'il est totalement légitime en tant que coaché de le nommer et de le dire. En disant, voilà, je, depuis quelques séances, je ne m'y retrouve plus. Je, voilà ce que je ressens. Et puis nommer à ce moment-là les besoins. J'ai besoin de me sentir avancée. Alors, ça peut aussi être une merveilleuse occasion de reformuler les objectifs du coaching. Parce que parfois, s'invite des résistances et des réticences au changement.
Et donc, vous faites plus de coaching maintenant, je pense, chez 60 000 rebonds. Vous faites que des coachings...
Alors ça, quand je suis rentrée chez 60 000 rebonds, je suis rentrée en tant que coach référente. Mais être coach référente, c'est aussi faire du coaching. Hein, ça n'est pas que s'occuper de la communauté des coachs, c'est aussi faire du coaching. C'est d'ailleurs à cet endroit-là que j'ai trouvé le sens de ma contribution à 60 000 rebonds. Et en tant que présidente depuis un an maintenant, je réfléchis au sens de ma mission de présidente. Elle est toujours orientée, l'entrepreneur en rebond, toujours. Quand j'élabore un projet, que ce soit les groupes de parole, que ce soit les ateliers de bien-être, que ce soit d'autres choses qui vont arriver là à la rentrée, qui sont en train de se peaufiner, c'est toujours dans l'intérêt de l'entrepreneur en rebond. J'ai la grande chance d'avoir une équipe extraordinaire de gens qui sont investis, impliqués, qui sont tous de très grands professionnels et qui contribuent vraiment à un accompagnement de qualité.
Et c'est quoi justement votre mission de présidente ?
Ma mission de présidente, ma mission de présidente. Alors, d'abord, je pense que c'est la première chose que j'ai fait. L'avenir nous dira si c'était pertinent, mais je suis assez convaincue que ça pouvait l'être. La première chose, c'est que je me suis attachée à me construire une vision pour 60 000 rebonds grand test. Et je suis allée chercher une meilleure connaissance de 60 000 rebonds en allant chez mes collègues en région, et notamment à Lyon, où j'ai été merveilleusement, généreusement accueillie, reçue, écoutée, entendue. Je suis rentrée avec plein de réponses. Ce qui m'a permis ensuite d'élaborer ma vision, à construire vraiment ma vision, élaborer une stratégie avec des plans d'action qu'un conseil d'administration a validé, qu'un bureau met en musique au quotidien. Donc ça, c'est, ça fait partie de ma mission. Ensuite, la deuxième mission, c'est de fédérer tout bénévole de l'association autour d'un projet. Et ça, je me suis attachée, par exemple, à ce que le conseil d'administration passe, je les ai beaucoup amusés par exemple en leur disant bien souvent dans les conseils d'administration on envisage les choses comme des prérogatives, et bien on va passer de la culture de la prérogative à la culture de la contribution. Et c'est vrai que je les sollicite à nous ouvrir leur réseau par exemple, et ils le font avec beaucoup de générosité et beaucoup d'intelligence, de pertinence aussi. C'est ça, c'est aussi en tant que présidente, c'est aussi aller représenter l'association devant les pouvoirs publics, devant des partenaires anciens ou futurs, parce qu'on espère construire des partenaires. Et c'est vrai que moi, je me suis attachée dès le début de mon mandat à tisser des liens de qualité dans l'écosystème avec tous les acteurs autour de l'entrepreneur en rebond. Parce que je pense que c'est très très important. La France est riche d'actions bénévoles éminemment bien structurées, structurantes et efficaces. Donc je suis allée retisser des liens dans l'écosystème, des liens de qualité pour créer une vraie dynamique qui nous soit commune. Et ça, j'y suis très très attachée. Et puis j'ai la chance de manager une permanente, Annick Sicler, qui est une femme extraordinaire, qui a beaucoup d'expérience de la vie associative, qui a une connaissance de l'écosystème alsacien extraordinaire. Et ça, c'est aussi une grande chance d'avoir à manager et à animer les équipes et à se donner l'autorisation de créer et d'expérimenter ce qui peut apporter un plus dans les accompagnements. Et j'ai la grande chance d'avoir la confiance totale de notre président qui me laisse faire, qui m'encourage à expérimenter, qui m'aide. Finalement, c'est pas 60 000 rebonds grand test, on est arrivé à une autonomie financière, mais qui est encore fragile. Le soutien du national et la solidarité de mes autres collègues en région, elle nous est précieuse. Et ça, voilà, c'est tout ça un peu mes missions de présidente bénévole d'une association comme 60 000 rebonds Grand Est.
Mais dans le Grand Est, il n'y a qu'à Strasbourg une antenne.
Alors, nous avons le siège est à Strasbourg depuis 2015, mais nous sommes convaincus, enfin ça c'est une croyance de 60 000 rebonds, c'est plus qu'une croyance, c'est une conviction, et parce qu'on l'a hélas expérimenté, éprouvé. Il est un devoir de 60 000 rebonds de pouvoir avoir un maillage territorial fort et de développer ce maillage territorial. Pourquoi ? Parce que la fragilité financière dans laquelle les entrepreneurs en rebond sont plongés après la liquidation judiciaire de leur entreprise, parce que je vous rappelle qu'ils n'ont plus de revenus et souvent ils ont des dettes personnelles et ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est combien la banque va facturer, enfin, donc c'est compliqué et ça peut durer pendant quelques années, ça, enfin quelques mois en tout cas.
D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à la banque, je me permets. J'ai fait un podcast avec Rémi Despopia qui disait que le meilleur conseil qu'on lui a donné, c'est que quand tu dois 10 000 euros à la banque, c'est, tu peux avoir peur, mais quand la banque te prête 100 000, 200 000, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais voilà.
Chacun dort sur ses deux oreilles comme il le peut ou comme il le veut. Je ne vais pas répondre à cela. Mais je pense que si vous voulez, ce qui est important, c'est que... Ils se trouvent dans une très grande fragilité financière et on a pu voir que pour certains, se déplacer à Strasbourg pour aller au Copil, par exemple, une fois par mois, c'est une dépense qui peut être inenvisageable pour eux. D'où la nécessité d'ouvrir des antennes sur le territoire. Donc, grâce à des équipes de bénévoles, de professionnels bénévoles, à la fois à Nancy et à la fois à Mulhouse, sont en train de se lancer des antennes. Et ça, je suis pleine de gratitude à tous ces gens qui ont répondu présents et prêts à s'engager sous le dossard de 60 000 rebonds Grand Est pour pouvoir offrir justement sur leur territoire quelque chose de cette nature-là. Et puis, on est bien conscient qu'on ne peut pas ouvrir des antennes partout, donc on est tout à fait conscient de rester très perfectible sur ce sujet-là. Mais il y a des projets qui mûrissent un peu et on verra bien.
Il y a combien d'antennes en France ?
Pardon ?
Vous avez combien d'antennes en France ?
Alors, on est présent dans 32 villes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a environ 32 antennes. Il y a 18 permanents et on a 8 régions. C'est si vous voulez quelques chiffres aussi, c'est 1000 bénévoles qui accompagnent 720 entrepreneurs. Le Covid aura été un moment de grande visibilité pour 60 000 rebonds, donc on est à la fois conscient qu'il nous faut nous préparer pour accueillir à la fin de l'année les conséquences de la pandémie sur le champ économique, à savoir les tribunaux vont prononcer des liquidations judiciaires. Donc ça suppose que nous allons avoir un flux d'entrepreneurs en rebond à accueillir. Et pour pouvoir le faire, le corollaire, c'est d'avoir des bénévoles. Et c'est vrai que pendant le Covid, très nombreux sont les gens qui sont venus, d'une façon ou d'une autre, se sont manifestés en exprimant leur envie de venir contribuer à 60 000 rebonds, sur le Grand Est en tout cas. Et nous avons pu faire des recrutements. Mmh. Et ça, c'est très, très important. C'est très, très important. Pour pouvoir être prêt pour la fin de l'année et le début de l'année prochaine, qui seront probablement très difficiles.
Vous estimez qu'il va y avoir plus de monde qui va venir, donc est-ce que vous ouvrez plus de places en accompagnement ?
Oui, c'est ce qu'on fait en ouvrant les antennes. Oui. Ouvrir une antenne, c'est-à-dire que c'est... ouvrir une antenne, c'est avoir un petit groupe de bénévoles qui vont parler de 60 000 rebonds, mobiliser des gens, c'est avoir à ce moment-là, si vous voulez, un groupe de coachs, de parrains, d'experts, et qui vont être prêts à accueillir des entrepreneurs en rebond.
Mais même à Strasbourg, je veux dire, je pense qu'il y a un quota de personnes que vous suivez par an par rapport à...
Alors, on n'a pas de... Non, on n'a pas de quota.
Vous n'avez pas de quota.
En fait, on n'a pas de quota.
On ne dit pas, on peut que faire ce...
Non,
de personnes.
On n'a pas de quota parce que pour l'instant, 60 000 rebonds Grand Est n'avaient pas une très grande visibilité. Mm-hmm. Donc on était un peu une petite association un peu confidentielle et on avait 5-6 accompagnements. Là, on a gagné en visibilité, probablement d'ailleurs parce qu'on a tissé des liens nouveaux avec l'écosystème et on a tissé notamment des liens avec une association formidable qui s'appelle APESA. Qui est né d'un constat qu'ont fait les magistrats et les greffiers dans les tribunaux, à voir l'état de détresse psychique dans laquelle était plongé un entrepreneur après la liquidation judiciaire. Et ils ont créé une veille psychologique active, immédiate. En moins de 2 heures, l'entrepreneur qui a donc vécu la liquidation judiciaire est immédiatement contacté par un psychologue. Ce lien qu'on a fait avec eux fait que, si vous voulez, aujourd'hui, on est repéré, les mandataires judiciaires, les juges consulaires nous font confiance.
Mais j'allais dire.
Ils connaissent. Ce sont nos prescripteurs. Mmh. Les experts comptables, les avocats, les mandataires judiciaires, les juges consulaires, la CCI, l'Euro Métropole, la région, sont autant d'acteurs de la visibilité de 60 000 rebonds. On n'a pas les budgets pour se faire connaître par
de la
publicité ou du marketing. On est loin de cet espace-là. Donc l'idée, si vous voulez, c'est qu'effectivement, on s'attache à travailler bien, à faire des rebonds de qualité. Et à ce moment-là, c'est notre plus belle récompense. Et comme vous savez, vous dites très justement, le bouche à oreille. Le bouche à oreille fonctionne très très bien.
Et parce que je me disais, si quelqu'un a une liquidation judiciaire, etc., la personne devant, qui est le juge, je ne sais pas comment ça se passe, pourrait lui dire de façon humaine, il existe des associations, allez là-bas.
C'est ce qu'ils font bien souvent d'ailleurs, ils donnent un flyer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a la confiance de ces grands professionnels de la liquidation judiciaire qui sont bien conscients. Je veux dire, ils font un métier excessivement difficile. C'est parce que la liquidation judiciaire, ce n'est pas un acte de lâcheté. Hein, au contraire, c'est plein de courage de la part d'un entrepreneur de dire bon, j'arrête. Voilà. C'est très courageux. D'arrêter. Et c'est vrai que cette visibilité qui est là aujourd'hui pour nous permet à la fois de recruter les parrains, les experts et les coachs dont on a besoin. Voilà. On s'appelle 60 000 rebonds parce qu'il y avait 60 000 liquidations judiciaires en France par an. L'année dernière, il y en a eu 56 000, donc on s'était réjouis. Cette année, on ira sans doute à plus de 100 000. On ne peut pas se réjouir de cela, mais ça montre à quel point notre action est nécessaire, elle est utile. Donc on travaille plus encore.
Et là, l'année prochaine, ça va être encore différent. 2021 va être mouvementé, je pense. Hein.
Oui, sans doute. Mais on sera présent. On est là sur le territoire et les antennes sont là, elles sont prêtes. Je veux dire, des coachs ont été recrutés, des parrains se sont déjà mobilisés, des experts sont mobilisables relativement facilement, aisément, grâce à ce réseau et le fait qu'on ait fait nos preuves. Ce qui nous aide aussi beaucoup, c'est d'avoir un observatoire du rebond. 60 000 rebonds, c'est doté d'un observatoire du rebond dans lequel les enseignants-chercheurs récoltent nos données et nous permettent d'avoir une analyse sincère, authentique et profonde de l'analyse de notre travail. Et ça nous permet, si vous voulez, d'améliorer en permanence notre accompagnement, de nous rendre compte de ce qu'on fait bien. On va donc renforcer, et puis de ce qu'on aurait intérêt à investir et à faire un peu différemment. L'Observatoire nous a fait Moi, j'ai demandé au responsable de l'Observatoire de partager avec le conseil d'administration et le bureau 60 000 rebonds Grand Est les résultats d'une première enquête pour qu'on puisse investir immédiatement nos axes de progrès. Et tout ça est c'est une grande chance que le national nous offre des outils de cette qualité-là.
Et pour finir ce podcast, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on pourrait conseiller soit à une personne qui est dans un échec et qui n'arrive pas vraiment à avoir encore la résilience, ou de quelqu'un qui va se dire je vais liquider. Quel conseil on pourrait donner à ce... Soit l'un, soit l'autre, enfin.
Alors, moi, je pense que quand on traverse un échec, pour en avoir à mon actif un certain nombre, je pense que la première chose à faire, c'est de reconnaître qu'on peut avoir besoin d'aide, que c'est OK d'être vulnérable et d'avoir... d'être aidé par d'autres que soi, d'être aidé à cheminer sur le chemin de cette prise de conscience que il s'est passé quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la faute morale. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez pu observer que nous ne prononçons pas le mot faillite. Le mot faillite a été le mot le plus utilisé en France pour rendre compte d'une vérité qui s'appelle la liquidation judiciaire. Dans le mot faillite, il y a la notion de faute. Il a failli, il a fauté en quelque sorte. Et je crois que le premier conseil à donner à quelqu'un qui traverse un échec de cette nature-là, mais d'autres aussi, c'est de reconnaître immédiatement, avec beaucoup d'humilité, qu'on a besoin des autres, qu'on a besoin de l'écoute, de l'écoute des autres, qu'on a besoin aussi peut-être de se responsabiliser, et pour ce faire, l'autre, en plus quand il est un professionnel, c'est toujours une bonne ressource. Parce qu'on a les ressources en soi, simplement on n'est plus tout à fait en capacité de les voir, de les mobiliser. Et oui, c'est cette humilité-là de se dire « Ok, j'ai besoin de l'autre pour m'en sortir. »
Ouais, de s'entourer, comme vous le faites.
Oui, en tout cas, moi, je n'ai pas eu je n'ai pas vécu d'échec professionnel encore. Ça pourrait arriver, hein, ça peut toujours arriver. En revanche, j'ai vécu de gros échecs dans ma vie personnelle qui m'ont emmenée juste dans la dépression. Et je sais que si je regarde derrière moi, je me dis mais quelle chance j'ai eu de faire les rencontres que j'ai faites, de ces professionnels, de cette qualité d'écoute, de questionnement au bon endroit, à la bonne hauteur. Et je me rends compte à quel point ces échecs m'ont beaucoup appris sur moi, sur la vie, sur ce qui était bon pour moi, ce qui ne l'était pas. Et puis surtout d'avoir l'espèce de foi en l'humain, en sa capacité à rebondir, à savoir à reconstruire quelque chose qui est bon pour lui.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec le pouvoir de la gratitude. On dit qu'il faut... Enfin, ce n'est pas au sens strict de... Pas c'est bien ou c'est mal, mais genre juste j'ai vécu ça, c'était parfait, ça m'a amené à qui je suis aujourd'hui.
Alors, c'est...
Moi, ça peut être très ésotérique.
C'est très juste ce que vous dites là, parce que le pouvoir de la gratitude, je l'ai... moi, j'en suis convaincue depuis très très longtemps. J'ai un jour écrit une lettre à quelqu'un qui m'avait fait vraiment souffrir, que finalement je le remerciais de m'avoir proposé de vivre cette expérience-là, parce qu'elle m'avait libéré plein de choses. Et je crois qu'effectivement, c'est cette relation que nous pouvons avoir entre la vulnérabilité et la puissance. C'est, quand je dis la puissance, n'y voyez pas de traces d'arrogance. C'est juste la capacité à faire des choses dont on ne soupçonnait même pas notre capacité à faire. Et je crois que toute crise présente un cadeau caché. Chaque fois que vous faites le deuil de quelque chose, vous avez quelque chose à accueillir. Et c'est vrai que le rebond, c'est ça. Le rebond, c'est avoir renoué avec ses capacités à se donner les autorisations d'expérimenter de nouveau. Et de continuer à vivre, en tout cas, et en étant dans un sentiment de gratitude profond, puisque la gratitude, elle va aussi vous permettre de pardonner. Elle va vous permettre de pardonner. Or, le pardon, ça n'est rien d'autre que le renoncement d'une dette, hein, l'abandon de la dette. Et qu'est-ce qu'on se sent léger et qu'est-ce qu'on peut avancer une fois qu'on a pardonné? Et ça, c'est aussi le chemin qu'on fait faire aux entrepreneurs en rebond, c'est leur faire conscientiser que cette expérience-là et se pardonner à eux leurs erreurs, pardonner à l'expert comptable de ne pas avoir bien conseillé, pardonner, mais c'est surtout se pardonner à soi d'avoir traversé ça et d'avoir fait traverser ça à ses proches. Et ce chemin-là, c'est probablement le chemin de la liberté profonde, c'est sûr.
Parce que je pense que le problème quand on ferme quelque chose, enfin quand on ferme notre entreprise, c'est la culpabilité. Ça, je pense que c'est ça le plus gros problème qu'on a.
Oui, c'est très juste. En fait, il y a la culpabilité et souvent il y a aussi la posture de victime. Alors, c'est riche des deux. Ça peut être même, ça peut être ou et ça peut être est. Et cette culpabilité, si vous voulez, enfin, ce sentiment de culpabilité qui est là, il s'est construit parce que chacun, dans son éducation, a reçu cette relation à l'échec, s'est construit cette relation à l'échec avec son éducation, avec ce qu'il a appris de l'existence. Et il est vrai qu'en tant que parent, par exemple, nous avons une responsabilité aussi dans cette relation à l'échec. Va-t-on donner à nos enfants le droit à l'échec? Et qu'est-ce qu'on va en faire? Et ça commence très jeune, ça commence très très tôt. Ce qui est peut-être un lieu commun, mais je pense que dans le système anglo-saxon, qui s'embarrasse beaucoup moins de cela, parce qu'ils ont une espèce d'optimisme chevillé au corps en pensant qu'ils vont apprendre et finalement vous devenez un bon chef d'entreprise aux États-Unis si vous avez déjà planté deux ou trois fois votre entreprise. Ça n'est pas un problème. Alors c'est sûr qu'il y a ce juste milieu, hein, entre une espèce de béatitude devant l'échec, qui je trouve n'est pas nécessairement de bon aloi, et puis cette relation que je trouve saine avec l'échec en disant très vite, ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérience et qu'est-ce que j'en fais? C'est ça l'essentiel en fait.
Et juste pour finir, j'ai une autre question, je me demande si en fait en France on n'est pas un pays pessimiste, des fois.
Alors,
non, ça c'est une grande question. On est toujours là à râler, un peu négatif sur les bords en fait. Je
alors, c'est vrai que c'est toujours difficile pour moi de faire des généralités oui, là, comme ça sur des nations et sur des cultures. Mais je crois que, effectivement, pour avoir vécu à l'étranger pendant très longtemps, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup interrogée. C'est cette tendance que nous avons à, comment dirais-je, à nous plaindre beaucoup et avoir le verre à moitié vide. Il est vrai que ce degré d'exigence peut-être nous a amené à faire des avancées extraordinaires. Le modèle social français, c'est probablement construit parce qu'il y a eu des frustrés qui l'ont dit, qui ont exprimé leur frustration. Maintenant, c'est vrai que ça peut aussi porter préjudice. Et je crois qu'on est... l'optimisme, c'est quelque chose qui se choisit. Vous pouvez être de nature optimiste, mais vous pouvez aussi choisir de le devenir. Parce que être optimiste, ça n'est rien d'autre que de croire en une solution au problème dans lequel vous êtes. Alors que le pessimiste, lui, va s'attacher à ne pas voir de solution au problème. Il va parfois même jusqu'à se complaindre dans le problème, se complaire dans le problème. C'est vrai que le plus joli cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui permettre d'accéder à ce libre choix qu'est l'optimisme.
Ouais, c'est clair. J'avais lu une phrase assez sympa sur l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui disent « j'ai pas les moyens ». Et il y a d'autres personnes qui disent « je vais trouver le moyen de m'acheter ça ». Et en fait, je trouve qu'en France, on ne se dit pas assez « je vais trouver le moyen ». Mais après, je sais, c'est peut-être une généralité, peut-être, j'espère que ça va changer, mais c'est comme ça, en fait, qu'on nous nomme français râleur, pas content, il y a toujours un truc qui ne va pas. Alors peut-être qu'on est trop élitiste, peut-être qu'on a ce sentiment de vouloir... Quand même, on a un peu beaucoup d'ego, je trouve, au niveau des autres nations. Des fois, on manque d'être un, mais c'est peut-être ça qui nous fait... Voilà. Dans les choses négatives, eh ben, ça nous apporte quand même, voilà, comme nous sommes notre système français, enfin, par rapport à peut-être... Il y a du bon et du mauvais, et même dans le mauvais, il y a du bon qui nous tire.
Mais c'est la vision optimiste des choses, c'est de savoir que dans toute chose difficile... Il y a dans toute épreuve que vous traversez, il va y avoir une porte de sortie. Le tout, c'est de la trouver. Et si vous êtes optimiste, vous allez vous attacher, vous allez mettre votre énergie à trouver cette porte de sortie. Si vous êtes pessimiste, vous allez probablement avoir plus tendance à regarder votre problème et à boucler autour du problème, c'est-à-dire à le renforcer. C'est donc une question aussi d'énergie quelles sont perceptions, et de votre perception, de votre représentation mentale, va se construire l'énergie dans laquelle vous allez pouvoir agir ou pas.
Oui, même,
c'est clair.
Ça, je dis, ouais, on est trop râleur, mais peut-être que on est râleur, mais grâce à ça, ben, on a, enfin voilà, c'est une vision optimiste de même les points négatifs qu'on a, quoi.
Je pense que des philosophes disaient que la vérité était dans le juste milieu. Je crois que la vérité est dans le juste milieu. Mmh. Mais je crois qu'on n'a rien à gagner en s'attardant à rester des pessimistes. On a plus à gagner. L'optimiste, il vit le problème de la même façon. C'est le même. C'est-à-dire, il divorce, il a sa liquidation judiciaire, il a des épreuves de la vie, il les a. Mais l'optimiste est convaincu qu'il va y avoir une solution. Donc, il va la chercher, il va se mettre en quête de la solution. Là où le pessimiste, lui, sera plutôt passif. Hein, y a une question aussi de passivité dans le pessimisme. Alors que dans l'optimisme, il y a une question d'optimiser les choses. Donc, d'être dans une dynamique de changement, probablement.
Ben, je crois qu'on a fini ce podcast.
Merci, Priscilla.
Ben, merci d'avoir participé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.